Il est évident que beaucoup de nouveaux livres sur le sujet présentent aussi une relation entre mère et fille qui est douce, qui était morte, qui est harmonieuse, mais forcément, ce n'est pas de ces textes-là que je parlerai aujourd'hui. Il sera aussi peu question d'auteurs racisés aujourd'hui, parce que souvent, chez elles, le rapport mère-fille est plutôt lié à la solidarité et à la résistance à l'oppression. À cette réserve près, dans l'ensemble des romans du rapport mère-fille d'aujourd'hui, les excès et les débordements sont plutôt la règle que l'exception. Ils sont importants dans près de la moitié de la quarantaine de romans que j'ai travaillé jusqu'à présent. Alors, pour vous aider à ne pas perdre le fil, parce que je vais citer un peu en vrac beaucoup de textes, voici la liste de ceux que j'évoquerai aujourd'hui. Et voilà déjà début et fin de ma présentation PowerPoint. Alors, à loisir, vous pourrez voir de quel titre je parle. Alors, de quoi parlons-nous? Vos mots sont exaltation et débordement. Le mot que moi j'utilisais plutôt dans les derniers travaux, c'est excès ou excessif. Et je vois avec plaisir que excès figure dans votre liste de notions concomitantes dans l'appel de proposition. Alors je vais voguer entre débordement et excès. Termes qui effectivement ont beaucoup en commun et en reprenant des choses pour les présenter autrement pour vous aujourd'hui, je voyais que avant même l'invitation au colloque, j'avais quelquefois employé aussi le mot débordement. Donc on est en terrain partagé. Voilà. Alors, commencer un tel travail, me semble, impose qu'on passe par les mots, par une petite réflexion sur les mots. Alors, cette conférence aurait très bien pu s'intituler à la place « Méditation devant un article du Grand Robert ». Parcourir une des longues entrées de ce dictionnaire me plonge toujours dans une rêverie heureuse. Rêverie peut-être proche de l'exaltation parfois, et c'est par ce mot-là que j'ai commencé à aller voir dans le dictionnaire. Alors, à cette entrée du Grand Robert, on trouve ardeur, chaleur, emballement, animation, feu, passion, un peu les thèmes qu'évoquait Corentin tout à l'heure, mais aussi égarement, fièvre, surexcitation et délire. Alors déjà là, on peut se demander qui décide quand l'emballement devient égarement, quand l'animation se fait surexcitation, bref, qui a le pouvoir de déterminer que la mesure a été dépassée. Les émotions fortes, et particulièrement celles des femmes, sont ainsi policées, surveillées et sanctionnées au besoin. Une femme qui tape sur la table et se fâche durant une réunion devient vite folle, mégère, sorcière ou castratrice, par exemple. Et c'est une exaltée et rarement un compliment. Toujours hypnotisée devant mon Grand Robert électronique, facilement mon meilleur achat des dernières années, je passe au mot débordement. Retenons déjà quelques fils conducteurs que j'évoquerai à mesure et dont vous voyez ici une représentation extrêmement poussée du point de vue de la haute technologie, hein, l'inondation, le libertinage, l'envahissement et l'explosion. Ce sont tous des mots donc, qui apparaissent dans cet article du dictionnaire comme notions connexes et que je vais utiliser comme fil conducteur de ce qui suit. Alors, je vais vous parler de trois types de débordements dans les romans de la relation mère-fille au Québec. Tout d'abord, les débordements de la violence, une violence verbale, ensuite une violence physique, débordement ensuite de la frontière entre dedans et dehors, elle et moi, mère et fille, où on trouve les motifs de l'enfermement, de l'expulsion, de la dévoration et du vomissement. Débordement enfin dans l'écriture même, on passe de l'évocation des fluides corporels à une écriture débordement, une écriture explosion. Explosion étant donc un autre des mots qui était connexe. Alors, d'abord les débordements de violence. La première violence est verbale. Le premier pouvoir consiste en s'arroger le droit de dire et de nommer. La perspective narrative d'une œuvre, j'en ai la conviction, est inséparable de cette notion de pouvoir. Il s'agit de savoir, avec la perspective narrative, qui voit, qui impose son point de vue, qui réduit l'autre au silence. Dans le roman de la relation mère-fille, même si la mère a nettement plus souvent la parole qu'autrefois, c'est en général la perspective de la fille qui prime. Et c'est donc elle qui juge, condamne, accable la mère. Il ne faut pas oublier ce fait important pendant qu'on parcourt les textes. La première violence, c'est donc le débordement d'injures. Cette expression figure telle quelle dans le Grand Robert pour qualifier ou plutôt pour disqualifier la mère. Elle est, entre autres, araignée, insecte, vache, chienne, serpent, mais aussi putain, folle et dictatrice. Ce sont souvent du reste moins de simples injures que de véritables isotopies textuelles, voire la vraie identité de la mère. Ainsi, la métaphore envahit et contamine l'ensemble du récit, comme les coquerelles envahissent une cuisine sale ou la maladie de la mère infecte la fille. Voici quelques exemples parmi des dizaines dans les romans. La mère est larve chez Nelly Arcan, coquerelle géante chez Marie-Cécile Labrèche, araignée énorme qui a littéralement squatté la tête de sa fille chez Cynthia Girard, dont le titre est « J'ai percé un trou dans ma tête » pour s'en débarrasser. Chez Louise Desjardins, la mère est une mouche écrasée. Chez Ying Chen, une mouche bourdonnante qui entoure des cadavres ou un verre à soie. J'y reviendrai. Ailleurs, la mère sera une vache. Mauvaise bicarbonate de vache qui encrasse la vie de son enfant chez Martine Rondeau. Vache folle chez plusieurs auteurs, Mo Singh, Louise Desjardins de nouveau, Marie-Cécile Labrèche. Dans Paradis clé en main de Nelly Arcan, la mère malade est tombée du royaume des créatures célestes pour choir sur le plancher des vaches folles. Qu'elle meure, la maudite vache, dit encore la protagoniste d'Annick Fortin. Corporalité dégradée, folie, souillure et maladie contagieuse, la maladie de la vache folle évidemment, la métaphore prise au pied de la lettre dans de nombreux cas est empreinte d'une violence aveugle qui frappe de nullité la parole, le corps, voire toute l'existence de la mère. Et là où la pensée patriarcale sépare la mère et la putain, la rhétorique textuelle des filles actuelles les confond. Je retiens un seul des nombreux exemples puisés chez Mo Singh où la fille regrette sa vie condamnée d'avance. Cette putain de maman qui vendait son cul pour arrondir ses fins de mois. Je suis une fille de pute, un bel avenir en perspective. Dans ces textes, la sexualité de la mère est toujours ce qui déborde. Trop ou trop peu, trop plein ou vide stérile. Qu'elle offre sa fille à ses amants du moment, comme chez Annick Fortin, ou qu'elle lui interdise même d'avoir ses règles parce que seuls les putains perdent leur sang chaque mois, comme chez Hélène Boissé, la mère est liée à la fois à la putasserie, mot ressassé chez Nelly Arcan, et à la folie. On rejoint ici un autre sens du mot débordement, déchaînement, libertinage, licence. Et il n'est pas innocent que l'exemple du Grand Robert pourrait illustrer cette acception du mot débordement, soit les débordements de Messaline. Romaine puissante accusée, peut-être simplement pour la discréditer de débauche. Donc la sexualité des femmes, autrement dit, est facilement excessive. Notons aussi que la rhétorique utilisée par les filles pour décrier les excès des mères est en elle-même excessive, voire folle. Vous l'avez peut-être déjà senti, on le voit encore mieux quand les protagonistes de Hélène Boissé ou de Mo Singh comparent leur mère au KGB, à un Hitler au féminin ou à une dictatrice québécoise, ou encore quand celle de Marie-Cécile Labrèche dit vivre dans un camp de concentration. Dans de tels cas, on est plus que jamais dans une rhétorique donc en elle-même excessive, folle, qui s'approprie, détourne et aplatit le politique par une analogie forcée qui, dans ces derniers cas, me paraît un peu regrettable. Ces images dictatrices, en tout cas, montrent encore combien la perspective narrative est inséparable du pouvoir de juger, de condamner, voire de mettre à mort. La rhétorique excessive déborde, essaime, transforme le texte en champ d'agression, voire en champ de bataille. Dit autrement, le texte est un débordement d'injures, aussi une expression qui est dans le Grand Robert. Toute la surface textuelle est traversée par ces mots cruels, criés ou crachés. Le livre est un flot de mots injurieux. Ce que je trouve le plus troublant ici, c'est la violente misogynie de bien des filles textuelles qui reprennent à leur compte les injures les plus fréquentes de la tradition patriarcale. L'araignée, la vache, la folle et la putain sont des images les plus stéréotypées pour décrire les femmes. Violence piégée du reste qui fait ricocher et blesse également les filles. Les injures sont autant de coups qui entament le corps de celles qu'elles visent, bien sûr, mais aussi le corps de celles qui les prononcent. Attaquer la mère, c'est presque toujours s'atteindre au passage. La mère chez Arcan est non seulement une larve, mais une larve qui a engendré une autre larve. Donc on entend la fille. Cette première violence verbale fait corps avec la violence physique qui traverse les romans et qui est le fait autant de la fille que de la mère. On trouve d'abord de très nombreux incestes, réels, symboliques ou fantasmés. Chez Singh encore, Fortin, Arcan, Rondeau. La protagoniste de Girard consulte un manuel intitulé « Liquidez votre mère, cet insecte qui vous séduit ». N'est-ce pas? Fusion des motifs de l'insecte, de l'inceste et du matricide. Chez Martine Rondeau, la mère vénère le corps de son fils jusqu'à lui faire des fellations extatiques, pour elle en tout cas. Je reviendrai sur le motif du cannibalisme dans un instant, image extrême de la confusion de dents dehors qui caractérise aussi l'inceste. Enfin, le désir de matricide est partout. À mi-chemin entre l'injure et le passage à l'acte, on trouve le souhait de mort, très fréquent, dont le titre de Mossing, Crève maman, est un condensé saisissant. On commet un matricide imaginé ou symbolique chez Arcan, Labrèche, Signe et Boissé, ainsi que chez Marie Gaudreau, pour n'en nommer que quelques-unes, chez Rondeau, Fortin, Girard ou encore chez Véronique Marcotte et Germaine Dionne, le matricide est bien réel. Les mères tombent comme des mouches, pourrait-on dire, écrasées par les fées. Les mères, elles, ne sont pas en reste en matière de violence. Elles battent et torturent leur enfant, ou du moins la négligent chez Singh, Labrèche chez Fortin, lui interdisent de découvrir son corps et son plaisir chez Boissé ou chez Nathalie Loignon, etc. Les crimes des mères, qui sont nombreux, sont en général liés à l'envahissement, au débordement qui fusionne mère et enfant, confondent le dedans et le dehors. J'en arrive ainsi à ma deuxième catégorie de débordement, ceux qui sont liés aux violations et au dépassement de la frontière corporelle entre les deux. I'll eat you alive, there will be no more lies. La protagoniste de Martine Rondeau cite ainsi une chanson de Radiohead dont le titre Where I End and You Begin résume parfaitement le double débordement qui se produit dans la relation mère-fille. Tout comme l'enfant à naître est marqué par les effets de ce que sa mère mange, entend ou ressent durant la grossesse, le mal de la mère contamine la fille. Les paroles maternelles sont venin chez Boissé. Son sang toxique détruit les enfants avant même leur conception chez Chen. Sa dépression distille un poison contagieux chez Rondeau et elle a le ventre empoisonné chez Singh. Toutes ces images illustrent la fusion périlleuse de la mère et de l'enfant. Si un poison peut être contagieux, c'est que la distance entre mère et fille est des plus réduites. On l'a déjà vu dans le cas du désir de la fille ou de son absence de désir, reflet de la sexualité maternelle. De même, dans de nombreux textes, la folie est contagieuse. On pourrait même imaginer que la folie propre à la relation mère-fille, c'est la confusion du sens propre et du sens figuré. L'envahissement par la mère est parfois à prendre au pied de la lettre. Chez Labrèche, par exemple, la mère Coquerel envahit l'esprit de sa fille comme les coquerelles réelles ont envahi son appartement. Chez Girard, la mère araignée a littéralement occupé la tête de sa fille qui doit percer ce fameux trou dans sa tête pour la déloger. Un autre type d'envahissement s'observe dans les images d'avortement. Avortement assimilé à des suicides ou à un meurtre de la femme enceinte par sa mère. Dans Paradis clé en main, une femme qui refuse la maternité a choisi des moyens extrêmes. Un jour, la femme a pris une grenade, l'a insérée dans son vagin à l'aide d'un lubrifiant gras avant de la dégoupiller, de faire exploser sa vie ensanglantée sur les murs de sa chambre à coucher, de réduire en miettes le bébé dont elle ne voulait pas qu'il ait la charge de l'avoir comme mère. Chez Mossing, la narratrice rêve que sa mère fouille dans son ventre à elle, de la fille, et lui arrache son enfant à naître. La pénétration du corps de la fille par la mère peut donc aller dans les deux sens. Y entrer pour y régner en maîtresse, y entrer pour en arracher le contenu, comme le bébé par exemple. Voilà donc un autre champ lexical lié au mot débordement, le champ militaire. Irruption, déferlement, envahissement, défaite. De l'amour dévorant, on passe souvent à une autre prise à la lettre, par un débordement de nouveau du sens figuré devenu sens propre, ou peut-être plutôt sens sale. La mère ici va manger l'enfant. La mère incestueuse chez Rondeau finit par faire rôtir son fils tout jeune, peau de porcinet et fesses de veau à lait, comme elle le décrit, et le mange. Mort, j'avale sa chair. Il rentre et reste au bercail. Mon assiette déborde de ses bouts d'amour, boudin parfait. Vous avez bien remarqué que l'assiette déborde, comme débordait l'amour, et comme déborde autant les gestes que la parole délirante de cette mère qui confond bercail et tombeau. Chez Ying Chen, à l'inverse, c'est le fils qui est vampire et cannibale. Je voulais, dit la mère, que mon enfant mange autre chose que ma chair, grignote autre chose que mes os, boive autre chose que mon sang. Le langage est presque mystique, presque christique, et tout à fait dans la logique délirante de l'incorporation. C'est de famille le cannibalisme, note une protagoniste de La Brèche. À l'image de la mère araignée qui a pris possession de la tête de sa fille, beaucoup de mères textuelles envahissent donc la fille, font irruption dans sa chambre quand elle se touche la nuit, lisent son journal intime, l'infectent, comme on l'a vu, la frappe de stérilité. Tu formes un glaire opaque et impénétrable qui bouche le col de mon utérus, écrit un personnage de La Brèche. Plusieurs mères renient leur enfant. Ultime forme d'expulsion, voire meurtre psychique. À l'avenir, tu diras aux autres que tu n'as pas de mère, que tu viens de la crèche, ordonne la mère chez Boissé. C'est la première phrase du livre. Envahissement et expulsion donc, mais aussi enfermement. La mère Chissing attache les enfants à leur lit ou les enferme sur le balcon. La protagoniste chez Rondeau évoque son corps cage et son corps cercueil. La mère chez Chen enferme son enfant pendant des semaines dans sa chambre, le gave de nourriture, mais sans lui adresser la parole. Sauvé par la voisine, il s'évade. S'agit-il de la part de cette mère d'un geste protecteur, comme elle le dit, ou d'une tentative de meurtre? Évidemment, des deux, tant les identités et les espaces débordent l'un sur l'autre, au mépris de toute logique et de tout équilibre. Si la chambre est bien sûr image du ventre maternel, le récit lui-même, dans bien des cas, devient ce ventre, cet espace clos d'affrontement et de rancune, comme le dit Ying Chen, où mère et fille égrènent sans fin la kyrielle de leur souffrance. Récit ventre, récit chambre, récit d'un meurtre, voire de deux. Récit où l'écriture, elle aussi, devient débordement. Bon, ma troisième partie sur le débordement dans l'écriture. Une rivière déborde, un discours aussi. Crue, inondation, déluge, flot, flux, torrent sont encore des mots du grand Robert. Débordement d'injures, débordement de bile, dit encore le même dictionnaire. Les textes évoquent d'abondance tous les fluides corporels jusqu'à donner lieu à une écriture excessive, une écriture débordement. Déjà dans l'ingratitude, qui est donc en dehors du corpus puisqu'il est paru en 95, Ying Chen décrivait l'amour maternel comme un amour d'araignée, dominant son territoire par les substances de son corps, par un mélange de sang, de salive, de sueur et de larmes. Plusieurs éléments sont à retenir ici, de nouveau la puissance de l'araignée, reine dominant son territoire, qui est entre autres le corps et la vie de sa fille. L'anthropomorphisme surprenant, est-ce qu'une araignée a réellement la capacité de suer ou de pleurer? Et enfin, l'évocation des fluides corporels auxquels on prête un pouvoir aussi absolu que démesuré. Depuis quand est-ce qu'on peut dominer par son sang, sa salive, sa sueur ou ses larmes? Nombre de textes sont ainsi traversés, irrigués et inondés, serait-on tenté de dire, par ces mêmes liquides corporels et quelques autres. On retrouve ici des motifs imbriqués dans ceux qu'on a déjà vus, le débordement d'injures, l'animalité, le corps excessif, scatologique. Dans Paradis, clé en main, la protagoniste note ceci, mère et merde. Une autre parenté de mots que je ne commenterai pas. Elle et moi, on est dans le même bain, on vient du même moule. Notons quand même ici que injurier la mère, c'est s'éclabousser littéralement au passage, puisqu'on est dans le même bain, d'eau sale et contaminée. La mère chez Rondeau s'extasie devant les mots et les flots, manger ou langer ou nager dans le sang ou dans la merde. Il y a des pages et des pages comme ça. Son écriture dérive sur les sonorités des mots, rimes, fusion encore une fois du sens propre et du sens figuré, métaphore délirante, hyperbole, pour produire l'écriture excessive d'une maternité qu'il est tout autant. Chez Louise Desjardins, l'image de la mouche écrasée est liée à la main de la narratrice tachée de chiure et de sang. Et aussitôt, dans le texte, suit l'image du corps mort de la mère, morte dans un accident et qui aussi est pleine de chiure et de sang. Donc les deux images contaminent la fille, la réjouissent et la dégoûtent en même temps. Chez Ying Chen aussi, la relation à l'enfant est liée à cette puanteur du sang. Donc les mots deviennent comme des objets sales qu'on peut projeter dans les airs ou se lancer à la tête comme autant de poignards. L'eau du ventre maternel, présente dans le manger, langer, nager de Rondeau, revient dans de nombreux textes, accompagnée à plusieurs reprises par une curieuse image de poisson rouge qui nage dans le ventre. On trouve chez plusieurs auteurs, notamment un personnage de Boissé avale une quantité phénoménale de poisson rouge et ensuite observe son ventre qui devient rond, sa peau tellement tendue qu'elle peut presque voir l'intérieur de l'aquarium. chez Girard, c'est impunément que la mer araignée dévore les poissons rouges. Toute cette eau évoque évidemment le ventre de la mer, fœtus retenu d'iboissé dans un placenta d'eau usée, autre image d'emprisonnement de la fille. Mais que les eaux soient usées, c'est-à-dire contaminées, ravive les connotations de saleté et de maladie. Ainsi, l'eau du ventre, l'eau des larmes qui coule abondamment chez plusieurs auteurs, un personnage chez Fortin collectionne même ses larmes dans des petits pots, irrigue les textes. Les eaux crèvent, le texte coule, le texte croule et sombre. À toutes ces images d'émanation corporelle s'ajoutent encore les images de vomissement, autre image de ce qu'on a ingurgité puis expulsé. La fille dans le paradis, clé en main, qualifie son discours de jet de bile enragée, un geyser ininterrompu. La protagoniste chez Boissé régurgite ses céréales et tout son lexique d'enfance parce qu'elle a mal à la terre entière et à sa mère. Avant l'écriture, je vomissais souvent, dit le personnage de Rondeau, sans qu'il soit clair si ce vomissement est prélude à l'écriture. Vomir puis écrire, ou un antidote, elle écrirait maintenant alors qu'elle vomissait avant. Mais dans tous les cas, comme l'écriture est toujours liée chez elle à la grossesse, le vomissement est aussi écriture. Écriture à la fois mortelle et maternelle, écriture du sang des fausses couches et de l'unique vraie grossesse, à moins que cette grossesse aussi soit simple effet de la folie de la protagoniste. Crève maman illustre l'enchevêtrement de ces motifs, tous issus du ventre emprisonné de la mère. Le texte est formé d'une longue chaîne d'ingestion suivie d'expulsion. Croquer et vomir des pilules, souffrir de boulimie ou devoir ingurgiter une seconde fois sous le regard sadique de la mère une nourriture vomie. Le lien avec la sexualité saute aux yeux. J'avais mes règles, je vomissais, je me vidais de partout en même temps. Comme le ventre, le sang est empoisonné, lié aux tentatives de suicide de la mère et de la fille, à la rage et à la folie. L'anorexie est un rejet du corps et de la sexualité, une manière de tuer en soi toute ressemblance avec la mère en tuant le ventre. Enfin, la protagoniste se saoule au vin rouge sur le tombeau d'une inconnue. « Je suis ivre. Maman coule dans mes veines. Je bois, elle me boit, je la bois, j'aboie. » Encore ici, on voit la confusion des frontières. Maman coule dans mes veines. Un parasitage réciproque réfléchi jusque dans la syntaxe. Elle me boit, je la bois. Et enfin, l'apparition de la colère et de l'animalité. J'aboie. Le texte lui-même semble avoir été craché ou vomi. Et à la fin, le personnage déclare être entièrement vide, comme si tout dire, c'était aussi perdre toutes les substances de son corps. Surtout, on a affaire à un flux désordonné de mots et d'images, un flux commandé par la logique folle et souterraine du rapport mère-fille, par un enchaînement davantage sonore que raisonné. Enfin, un commentaire de la protagoniste de Rondeau évoque une écriture spécifique qui serait liée à la furie au ventre, à une coulée narrative déchaînée comme une coulée de sang. Le petit parlerait de sa mère déchue dans une langue singulière, je pense, avec de la colère, avec une syntaxe hachurée, avec une hantise des utérus. Engendrement. Curieusement, malgré ce débordement de liquide dans les textes, l'écriture ne coule pas. Elle explose, jaillit en un flot tout sauf harmonieux. Elle est hachurée, violente, circulaire, allusive, obscure. Elle est débordement, explosion de violence, flot de mots, à la fois trop confus et trop clair. Pour conclure, donc, revenons à cette mère, à la fois énorme et minable. Elle est sale et répugnante, elle déborde et dévore, elle dépèce et détruit. Elle colle à la peau, elle envahit la tête, elle est partout en nous, elle rampe et mord. Impuissante face au monde extérieur et toute puissante, mais seulement pour le mal, face à sa fille. Ce n'est que parfois, lorsque la mère narre l'histoire, qu'elle perd cette toute-puissance, comme chez Ying Chen, où la mère s'imagine, non pas comme une araignée toute-puissante cette fois, mais comme un ver à soie dont la vie courte et aliénante est sacrifiée au profit de l'espèce. Donc elle est petite et faible au lieu d'être grande et toute-puissance. Mais en général, tout le catalogue de l'excès et de l'envahissement parcourt ces textes. De l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, poignarder, envahir, expulser avec violence, dévorer ou, au contraire, vomir, sont autant de manières à la fois de détruire l'autre et de se l'incorporer tout en voulant désespérément l'excorporer, pour ainsi dire. Donc, ça n'existe pas comme mot, mais ça devrait exister, excorporer la mère. La maternité donne lieu donc à une chaîne de violence inouïe qui se répercute parfois partout dans les textes. Tous ces exemples le montrent, l'interdépendance est totale entre des situations narratives de confusion identitaire, des corps envahis ou abandonnés, des sexualités excessives ou assassinées, des fluides féminins et maternels débordants et une logique narrative souvent délirante. Ces textes donc nous parlent de débordement, elles miment le débordement, elles sont débordement, excès, cris et crises, coulées d'excréments, de sang ou de vomi, meurtre et suicide à la fois. Voilà, merci.